un des clients qui nous bénit.
Lucien Devaux, est-ce que, sans trahir de secret, est-ce qu'il vous est arrivé au cours donc des la quarantaine d'années de vous piloter votre groupe, d'avoir le sentiment qu'à un moment donné vous alliez frôler le mur et que le groupe Devaux risquait d'être en grave danger? Et comment, dans ces cas-là, comment on réagit? Je suppose déjà qu'on dort plus beaucoup, mais...
La sagesse, je crois, mais c'est pas facile de le faire. C'est qu'il ne faut jamais raisonner chiffre d'affaires, si vous voulez, et toujours raisonner résultat. Parce que le chiffre d'affaires, si vous passez votre temps à raisonner chiffre d'affaires, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous avez tout le monde est contre vous. Le client, par définition, il veut payer le moins cher possible. Les gens qui vous entourent, ils raisonnent tous quantité faite, chiffre d'affaires. Il est très difficile de leur donner la notion, si vous voulez, de raisonner résultat. Alors ça, c'est la suprême sagesse, et le jour où on arrive à l'obtenir, on a déjà fait un grand progrès. Raisonner en disant, pour vendre plus cher, qu'est-ce que je dois amener en plus? Voilà. Et je crois que ça, c'est le problème permanent, et de ne pas dire je veux faire moins cher. Vous avez toujours moins cher dans le monde. Aujourd'hui, en plus, la mondialisation a fait que les armes ne sont pas égales. Donc sortons tous de ce problème de absolument faire du chiffre d'affaires. Vous amortirez vos frais, donc vous ne perdrez pas d'argent. C'est faux.
Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Mais sinon, on va continuer. Mais dès que vous voulez poser une question, maintenant, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Et bien sûr, je vous passe la parole. Est-ce que, Monsieur Devaux, gardez le micro un instant, parce qu'il y a aussi une forme de création qui est aussi, en fin de compte, surtout dans un groupe un peu important comme le vôtre, quand même, où il y a pas mal de monde, c'est d'être ce que j'appellerais un créateur salarié. Est-ce que c'est encore possible, ça, c'est-à-dire d'être salarié d'une société, mais à qui le patron ou la direction générale confie la capacité de créer un truc de toute pièce sur une de ses idées? Est-ce que ça, c'est encore possible?
C'est non seulement possible, mais aucune société ne peut survivre si elle ne fait pas participer ses salariés. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le style angélique et dire que tous les salariés qui travaillent chez vous, si vous voulez, ont envie, peuvent, etc., le faire. Mais si dans une entreprise, vous n'avez pas un pourcentage important de gens qui ont envie de créer en permanence, il n'y a pas que vous qui pouvez créer. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là et que tout le monde aille, si vous voulez. Mais je crois que ce qui manque le plus, c'est ce phénomène de vouloir créer pour vendre plus cher. Si vous voulez, créer pour fabriquer plus, on trouve beaucoup de gens. Créer pour améliorer les méthodes, beaucoup de gens. Créer pour valoriser votre produit uniquement, mais le valoriser pour l'améliorer et le vendre plus cher, ça c'est très difficile à trouver, mais c'est notre métier à tous de trouver. Parce que très souvent, lorsque la personne met un atout supplémentaire, elle n'imagine pas que cet atout peut faire changement.
Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, je suis d'accord, il faut effectivement promouvoir cette réflexion en interne, parce que vous savez que les entreprises françaises sont en Europe parmi celles qui déposent le moins de brevets, et ça explique peut-être également les difficultés de nos entreprises. Mais une idée qu'a eue récemment donc, le gouvernement, et vous en avez tous entendu parler, c'est de créer ces fameux pôles de compétitivité. Et l'idée de ces pôles, c'est justement un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de rapprocher des entreprises, les universitaires, les centres, les centres de formation, les centres de développement, les financeurs, parce que si on parle d'innovation, de brevets, etc., forcément, il faut une mise de fonds au départ. Et je ne reviendrai pas ici sur la frilosité des banques, parce que là, c'est véritablement aujourd'hui peut-être un enjeu majeur. Demain, l'enjeu majeur des entreprises, c'est le problème de trésorerie et tout suit derrière. Vous n'avez pas de trésorerie, vous ne pouvez pas faire le dos rond par rapport à effectivement un marasme comme on le connaît aujourd'hui. Vous ne pouvez pas innover, investir donc créer et déposer des brevets. Donc vous voyez, tout est lié. Mais je dirais que ces pôles de compétitivité, il y en a un qui est en Rhône-Alpes qui marche bien, c'est Plastipolis. C'est véritablement l'un des moyens de développer au sein des PME des produits innovants. Et là, forcément, ça passe par de l'innovation et derrière des brevets. Et là, je pense qu'il y a un gros rattrapage à faire en France par rapport à nos principaux concurrents européens, voire américains, qui, là, pour le coup, en déposent pratiquement tous les jours.
Vous voulez dire qu'il y a... C'est plus une question de mentalité, on est un peu frileux, c'est ça que vous voulez dire, ou pas assez...
Je dirais, vous savez, en France, on a la culture, là aussi, je prends l'exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple Michelin, je dépose rien, enfin, maintenant, c'est un peu changé, mais à une époque, Michelin déposait rien, ce qui permettait d'éviter d'être pillé, hein, forcément. Oui. Maintenant c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que peut-être que ça a participé de cette idée que voilà, je faisais mon truc dans mon coin, et puis de toute façon je développais pas trop à l'international, puisque les Français, là encore, les Français, les entreprises françaises ne se développent pas suffisamment à l'international, là encore par rapport à nos concurrents allemands qui entre guillemets chassent en meute, on va dire, hein, on s'entraide entre nous. Moi j'ai eu l'exemple un jour de participer à une réunion où deux entreprises de la plasturgie apprenaient au cours de la réunion qu'ils étaient en Tchéquie depuis des années, ils ne le savaient pas eux-mêmes, quoi. Donc vous voyez, ça aussi c'est pas normal, donc là aussi il faut qu'on retrouve ce travail en réseau. Certes, on peut être concurrent, mais en même temps la concurrence aujourd'hui, Monsieur Deveau l'a dit, elle est peut-être davantage indienne, chinoise. Et il serait peut-être temps, au moins en France, et voire même en Europe, de jouer un peu entre nous, de serrer un peu les coudes.
Alors justement, Lucien Deveau, là je m'adresse au moins autant au président de l'Union des industries textiles, hein, qui est en première ligne contre la mondialisation. On sait que votre secteur d'activité a payé, comme on dit, un lourd tribut à cette mondialisation. Vous êtes d'accord avec Thierry Charles quand il dit que il n'y a pas en France cette capacité d'entraîner des créateurs d'entreprises dans son sillage quand on est un groupe significatif, voire un grand groupe?
Je crois que tout est complémentaire. Hein. Les pôles de compétitivité, le textile, nous avons trois pôles de compétitivité. Nous avons un pôle sur Lyon qui est plus rattaché à des tissus techniques, hein, si vous voulez, un pôle à Lille qui est plus rattaché à du non tissé, et un pôle dans les Vosges qui est plus rattaché à la fibre. Il mélange fibre de bois, par exemple, avec la fibre textile. Hein. Donc nous avons trois pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, je crois, c'est très important, parce que ça permet aux gens de se connaître. Je crois que s'il y a un enseignement à tirer des pôles de compétitivité, c'est qu'un pôle de compétitivité qui arrive à réunir 50 personnes, 30 personnes par petit groupe de gens, c'est là où... Et normalement, c'est fait pour accélérer, si vous voulez, la créativité. Mais si vous mettez des gens qui ne sont pas créateurs dans un pôle de compétitivité, vous ne les rendrez pas créateurs.
Oui, mais pardonnez-moi de interrompre, Monsieur Deveau, mais vous dites que ça permet aux gens de se connaître, mais depuis, je sais pas, 30 ans, 40 ans, il y a des institutions, il y a des chambres de commerce, il y a des associations patronales locales, plus régionales ou nationales, ils font des échanges, ils se rencontrent, ils font des débats, etc. Il y a encore un problème de communication au sein des entrepreneurs, selon vous?
Bien sûr, si vous voulez. Et je crois que toutes nos institutions, quelles qu'elles soient, ne sont pas ouvertes. Nos institutions tournent en rond dans le système. Moi-même, j'ai été président de chambre de commerce pendant, je crois, 8 ans. Qu'est-ce que j'ai essayé d'amener dans cette chambre de commerce? C'est de recevoir tous mes adhérents pendant 6 ans. Et inviter à déjeuner tous mes adhérents pendant 6 ans et de faire toutes les 15 jours, tous les mois, un déjeuner de 100 personnes différentes. Parce que sinon, vous voyez des gens, mais vous voyez toujours les mêmes. Donc le problème, il est là. Et ne croyez pas que les gens se connaissent dans les métiers, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on a eu une culture de toujours perdre ce par quoi on est meilleur, si vous voulez. Et moi, si vous voulez, en tant que... président de l'Union des industries textiles, et dans tous les postes que j'ai eus, mon seul problème a été d'être totalement ouvert, de proposer aux gens de venir vers mes usines. Aujourd'hui, il y a 2000 affaires dans le textile, et à toutes, je leur dis, vous avez tel problème, venez voir tel truc chez moi, je suis ouvert, c'est pas le problème. De toute façon, j'ai beaucoup de chance, parce qu'on est un métier où on est tellement découvert toutes les minutes, je dois réaliser 6000 dessins par an dans mon entreprise. Donc tous les matins, il faut qu'on réalise 20 dessins différents qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait hier. Parce qu'un dessin n'est jamais le même. Et donc cela nous pose aussi qu'il faut les déposer. Nous, moi, tous les jours, j'ai un huissier qui vient à l'usine, qui me prend les 20 dessins que j'ai créés, hein, qui les, avec la date, etc., et qui me les dépose. Hein. Et si vous voulez, le problème, parce que je suis en permanence pillé. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, parce que dans mon métier, tout le monde réalise qu'il faut créer.
D'un mot, et je vous passe la parole, madame, mais juste, monsieur Deveau, vous avez déjà emmené, vous, à l'international, des petites PME ou des TPE à vos côtés, justement, pour profiter de la puissance de votre, et de la notoriété, et du savoir-faire à l'international de votre groupe, par exemple?
Il ne faut jamais avoir peur des concurrents. Et lorsque nous risquons de ne pas en avoir assez, il faut en créer. Si vous voulez, dans mon entreprise, j'ai créé 3 filiales qui vendent les mêmes produits que moi et qui sont sur les marchés tous les jours. C'est ni facile pour moi, ni facile pour mes collaborateurs d'avoir, si vous voulez, des concurrents. Parce que le risque que nous avions, étant dominant aujourd'hui sur le marché français, on exporte 80%. Donc, si vous voulez, on avait un risque d'être quand même dominant sur le marché français. C'était de ne pas avoir des concurrents qui nous piquaient aux fesses tous les matins, si je peux dire.
Madame, une question.
Oui, bonjour. Ma question s'adresse à...
Parlez bien dans le micro, oui, s'il vous plaît.
Bonjour. Ma question s'adresse à monsieur Deveau. Je voulais lui demander comment se porte ce secteur textile à un moment où la concurrence, vous avez parlé de mondialisation, la concurrence est énorme, et notamment du côté de la Chine. Quelles sont les stratégies concrètes que vous mettez en œuvre pour lutter ou pour affronter cette concurrence?
Écoutez, j'étais ce matin, si vous voulez, à Marseille, où je participais à une conférence sur le textile euro-méditerranée, hein, si vous voulez, donc avec Maroc, Tunisie, dans le cadre de Madame Vigouroux, qui a pris un rôle dans la mode à Marseille, notamment. Et d'abord, le textile a toujours connu la crise. Moi, je n'ai jamais vécu une année, un mois, deux jours sans entendre dire voilà.
Même dans les années 60.
Oh, mais aucun problème, hein, si vous voulez. Enfin, écoutez, moi, je suis arrivé dans une région où il y avait 200 affaires de tissage. Hein, et malheureusement, aujourd'hui, on représente 95% de la potentialité. Donc j'ai toujours connu la crise, j'ai toujours vu, malheureusement, des affaires qui fermaient. La grande chance que nous avons aujourd'hui, et il y a eu deux rapports textiles, deux rapports faits par les deux gouvernements successifs, par Mme Rey, dont je vous conseille la lecture, et le mot est le textile à l'avenir. Et le mot est de dire que le textile aujourd'hui a été en avance sur tous les métiers. La délocalisation, c'est le textile qu'elle a commencé la première, par obligation. Quand vous avez aujourd'hui des salaires de 1 franc par jour, alors que vous avez des salaires, si vous voulez, de je ne sais combien de francs par jour, de 100 fois plus, vous êtes obligé, si vous voulez, de vous battre sur d'autres dimensions. Et deuxièmement, il y a un message d'espoir qui, pour moi, est très important. Nous avons fait aujourd'hui le tour du monde. Le textile, d'abord, s'est fait au Portugal, parce que le Portugal a été moins cher. Ensuite, on a franchi, si vous voulez, Gibraltar, il s'est fait Maroc, Tunisie. Ensuite, il s'est fait à l'île Maurice. Ensuite, etc., il s'est fait en Chine. Il s'est fait sur les bords maritimes de la Chine. Ensuite, il a été à l'intérieur. Ensuite, on est revenu dans des pays de l'Est qui avaient des salaires très bas, plus bas que la Chine dans le système, etc. Nous avons fait le tour du monde aujourd'hui. Hein? Donc, ce que je peux vous dire, et je disais cela à Madame la ministre de l'économie l'autre jour, c'est que le textile, qui a été pendant 40 ans un secteur de déflation, hein, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, si vous voulez, mais le vote textile a baissé d'une façon considérable. Aujourd'hui, si vous remontiez il y a 40 ans, le textile allait très cher. Aujourd'hui, le textile vaut très bon marché. Mais ce moment est terminé. Nous sommes passés à une période où le textile est culturel maintenant. Il n'est plus... Mes parents, mes grands-parents ont fait du tissu pour tenir chaud habillé. Maintenant, tenir chaud habillé, c'est plus le véritable problème, c'est séduire. Donc, toutes les industries que nous avons aujourd'hui, l'industrie automobile, exactement, on voit bien les problèmes, c'est séduire. Et chacun veut quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, aujourd'hui, hein, toute l'industrie, tous les produits que vous achèterez demain, il faut qu'ils aient été faits pour vous. Alors évidemment, ce n'est pas caricatural, hein, si vous voulez. Mais j'étais aujourd'hui aussi, je me permets de garder la parole une seconde, j'étais aujourd'hui avec un garçon qui est un créateur textile, qui a fait une école classique du commerce et ensuite l'Institut français de la mode, qui est un institut à Paris, qui a été créé il y a déjà une trentaine d'années. Et chose extraordinaire, ce garçon, il me dit, je dis, où vous êtes maintenant? Je le connaissais vaguement. Il me dit, où vous êtes? Il me dit, je suis à la Villa Médicis à Rome.
Vénard.
J'ai dit, comment, Villa Médicis à Rome? Oui, on est une quinzaine et pour la première fois, on a pris un créateur textile à la Villa Médicis pour étudier les phénomènes de société, les phénomènes sociétals et les phénomènes pour que nos industries s'en sortent. Et vous savez la thèse sur quoi il le fait? Il y a encore à Rome des tailleurs qui sont dans la rue, près de la place d'Espagne, hein, si vous voulez. Il y a encore une quarantaine d'affaires. Vous rentrez, vous êtes une femme, un homme. Vous dites, je veux une chemise, je veux un pantalon, je veux un truc, regardez, je veux ça. Et à côté, il y a, si vous voulez, tous les grands noms de la mode qui existent. Et les gens ne veulent pas ça. Et à Rome, il y a encore 40 ateliers comme cela qui fabriquent et qui... chose extraordinaire, fabrique à un prix pas plus cher que si vous achetiez demain une robe là. Donc il a fait sa thèse là-dessus, il est allé à la Villa Médicis, mais voyez que, si vous voulez, tout est possible aujourd'hui, et le textile donc a fait le tour du monde, toutes les industries vont faire le tour du monde, et on va s'apercevoir que cela ne suffit pas. Je ne dis pas qu'on peut vendre à n'importe quel prix, mais cela ne suffit pas.
Moi, je rebondis oui, exactement sur ce que vient Didier, parce que c'est la même chose, dans la plasturgie, on a connu la même chose. De toute façon, c'est une course poursuite, effectivement. On a eu la même démarche, le Portugal, après les pays du Maghreb, après la Chine. À un moment donné, ce qui risque de nous sauver, entre guillemets, c'est les réglementations. À partir du moment, avec la hausse du pétrole, alors effectivement, là, je suis malvenu de le dire, puisque, hélas, depuis cet été, ça a de nouveau baissé, mais à partir du moment où le pétrole deviendra si rare et si cher, il faudra quand même se poser la question, il y a un essai, vous parliez d'un bouquin, mais il y a un essai de John Searle qui en parle, justement, de se poser la question, de savoir s'il ne faut pas revenir sur un marché véritablement de proximité, plutôt que de s'amuser à faire des allers-retours dans des avions, dans des navires, etc., qui polluent, qui sont donc sans, bon, le problème du CO2, etc. Donc véritablement, là, je pense que ça risque de nous sauver. Mais la difficulté, c'est dans combien de temps? Parce que pendant ce temps-là, vous avez effectivement tout un pan de l'industrie qui risque, entre guillemets, de disparaître, parce que manque de moyens, manque de fonds propres, etc. On en revient toujours à ce problème de financement. Donc d'ici que ça revienne, il ne faudrait pas qu'entre-temps, on ait un pan de l'industrie qui hélas, est disparu. Je voudrais juste faire un parallèle. Moi, ce qui m'a choqué, et ça, c'est véritablement une question qu'on doit tous se poser ensemble, vous n'avez plus de ministre de l'industrie en France depuis 2003. Il n'y a plus de ministre de l'industrie, sachez-le. Le ministère de l'industrie dépend aujourd'hui du ministère des finances. Là, on peut s'interroger véritablement sur l'enjeu, mais cette fois-là, c'est un enjeu politique, de savoir est-ce que notre pays souhaite demain avoir une industrie.
On va rappeler que l'ouvrage dont vous faites allusion parle de 2020 à peu près, autour duquel les matériaux sont, les transports sont tellement chers que on verra les relocalisations revenir. Enfin, à partir de 2015 à peu près pour le début du phénomène. Voilà, il y avait une question de monsieur, je crois. Allez-y. Pas bien près dans le micro, hein, que tout le monde nous entend.
Ma question s'adresse donc à vous quatre, mais spécialement à messieurs Devaux et Solar. Monsieur Solar, vous parliez du côté richesse humaine et sociale d'une entreprise qui n'est pas que chiffres. Monsieur Devaux reprenait un petit peu la même ligne en parlant du fait qu'une entreprise, ce n'est pas que le chiffre d'affaires, c'est plus le résultat, c'est toute une aventure. Pour nous, en tant qu'observateurs de l'économie, étudiants, on a plutôt l'impression de se retrouver face à un monde où la loi de la jungle régit tous les rapports, où les entreprises cherchent à faire du bénéfice, encore du bénéfice et toujours du bénéfice, et où le social, le côté rapport humain a pratiquement entièrement disparu. Comment est-ce que vous réagissez, vous en tant qu'entrepreneur, ou vous, messieurs, en tant qu'acteurs de ce milieu, à cette image qui passe, qui est bien souvent celle qui est dans la majorité de la population, qui n'est pas forcément actrice de du monde entrepreneurial?
On va demander aussi à Bernard Rouilly après, mais monsieur Solar d'abord.
Effectivement, négativement, mais... Je ne fais pas dire qu'une majorité des PME ont les mêmes valeurs que l'on peut avoir chez nous. Je pense que les richesses, comme je les ai exprimées tout à l'heure, en fait, c'est une question d'éthique et d'appartenance. Et partager le résultat avec ses collaborateurs, ça fait partie d'une valeur.
Monsieur Solar, pardon de vous interrompre, pour compléter la question de monsieur, si vous me permettez, quand, par exemple, vous réussissez un joli contrat ou qu'on voit que votre boîte monte en puissance, est-ce que vos collaborateurs ont le sentiment de vivre la même success story que vous, ou est-ce qu'il y a un décalage?
L'entreprise a 7 ans, elle n'a pas dégagé des bénéfices de suite, elle a dégagé des bénéfices à partir de la 3e année. Aujourd'hui, je fais un briefing général auprès de mes collaborateurs tous les trimestres où j'explique en fait les résultats, les choses importantes, les contrats, enfin tout ce qui s'ensuit. Et j'ai ouvert depuis maintenant 2 ans un plan d'épargne entreprise à mes collaborateurs où je reverse un quart du bénéfice toutes les années.
Et est-ce qu'ils ont le sentiment que justement, quelque part, c'est un peu frustrant pour le créateur que vous êtes, mais quelque part, il leur appartient un peu aussi la boîte et qu'ils la revendiquent alors, presque autant de vous?
En 2003, on a refait une augmentation de capital dans l'entreprise et mes collaborateurs les plus proches leur avaient proposé de rentrer dans le capital. Donc j'ai 3 collaborateurs qui sont aujourd'hui au capital à 2% et ils ont vraiment l'impression de faire partie de l'entreprise et avoir un morceau de l'entreprise.
Monsieur Deveau, prenez le micro si vous voulez répondre à monsieur. On va rappeler quand même qu'il y a pas mal d'études qui montrent, je sais que c'est un peu une tarte à la crème maintenant, mais il faut le rappeler qu'il y a pas mal d'études qui montrent que quand on interroge les Français dans leur ensemble, disant est-ce que vous aimez l'entreprise, réponse non. Est-ce que vous aimez votre entreprise, réponse oui. Quoi. Si je fais un peu la césure, une espèce de schizophrénie qui est installée. On n'aime pas les entreprises, mais on adore sa boîte.
Ben, si vous voulez, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des entreprises, si vous voulez, qui sont relativement à taille humaine. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, la taille humaine d'une entreprise, alors évidemment, tout le monde doit déléguer, tout le monde doit savoir, mais il faut déjà connaître tous les gens, si vous voulez. Bon, moi, dès que j'arrive dans l'entreprise, je dis bonjour à tout le monde. Je connais, j'ai 600 personnes chez Deveau, je les connais tous par leur nom et... je suis présent en réalité un jour par semaine seulement dans mes usines, dans chaque, et le jour où j'y suis, je dis bonjour à tous les gens présents, personnellement, première chose que je leur dis, comment ça va, etc., et je leur dis pas, qu'est-ce que tu as produit.
Hein. Mais est-ce que ça suffit, entre guillemets, pour reprendre la vraie question de monsieur, est-ce que ça suffit pour que les collaborateurs aient le sentiment, on va parler net, hein, de monsieur Deveau, en 93, quand il y a eu la profonde crise économique, il y a eu vraiment une rupture entre les salariés et les entreprises et les chefs d'entreprise, les premiers se sentant par moment, puisqu'il y a eu pas mal de licenciements secs, pas mal de suppressions d'emplois à ce moment-là, se sentant un peu lâchés au mieux en race campagne, et on a vu quand même pas mal de souffrances sociales. Est-ce qu'on reste encore sur cette idée, et est-ce que il a manqué peut-être un travail de pédagogie pour montrer que l'entreprise, c'était peut-être pas le paradis qu'on imaginait avant cette crise de 93, mais c'est pas l'enfer qu'aujourd'hui, notamment la jeune génération, un peu le sentiment dans lequel elle va rentrer. Et Bernard Houilly, je vous poserai la même question.
Je crois qu'il y a une notion essentielle, hein, si vous voulez, et qui est peut-être plus facile dans un métier comme le mien, textile, qui a une image de crise, etc., parce que les gens sont très sensibles à l'investissement. Une entreprise qui n'investit pas, une entreprise qui en permanence ne se remet pas en cause, les gens ont vraiment l'impression, si vous voulez, que le tuyau marche à sens unique sur le propriétaire. Et je crois que si les gens sont contents d'avoir une prime, certes, c'est très important pour eux et c'est quelquefois fondamental. Mais le moment de contentement dure peu de temps. Quand ils vous voient investir et qu'ils vous voient garantir leur avenir, ça dure beaucoup plus longtemps. Et je crois que ça, c'est le problème. Et le problème, c'est d'être à l'écoute de leurs demandes d'investissement. Parce que les gens, la plupart du temps, ils vous demandent des investissements très intelligents et qui, quelquefois, ne coûtent pas cher. Et si vous leur faites, c'est là où ils deviennent possesseurs de l'entreprise.
Bernard Houilly, même question.
Oui, la question pourrait être envoyée à vous tous. Pourquoi vous avez ce sentiment que l'entreprise, c'est toute magouille et rapport de force et inhumain. Donc pourquoi? Parce que ce qu'on peut observer, si vous voulez, c'est qu'il y a deux mondes quand même. Il y a le monde de la PME et puis il y a le monde de la très grosse entreprise. La très grosse entreprise, et je vais dire aussi, quand on parle d'entreprise, en général, on parle du travail, en général. C'est même pas seulement de l'entreprise, c'est le travail est devenu antipathique. Hein, c'est autrefois, le travail était un moyen de s'exprimer dans la vie. Aujourd'hui, c'est devenu, quelquefois, pour beaucoup, un moyen, une coercition. C'est-à-dire que c'est le travail qui m'empêche d'être, quoi. S'il n'y avait pas le travail, je pourrais être. C'est pas le travail qui me permet de me réaliser. Alors pourquoi c'est venu de ça? Je crois que l'entreprise française, la France a une particularité. C'est qu'un des principaux produits de l'entreprise, et je vais choquer les entrepreneurs ici, c'est que l'entreprise, elle fabrique des produits, elle fait ça, mais elle fabrique aussi de la dépendance. C'est-à-dire que les collaborateurs ont peu ou prou considéré que s'ils le donnaient à l'entreprise, il fallait qu'ils reçoivent, et ce qu'ils recevaient, c'était finalement le travail à vie, par exemple. Et cette dépendance, qui est, je crois, une caractéristique extrêmement française, les collaborateurs français, il suffit de voir les affaires Moulinex, la dépendance qui existe des collaborateurs et leur colère, finalement, parce que je tiens à vous rappeler quand même que, pour ceux qui auraient fait l'essai, je n'ai jamais vu un drogué aimer sa drogue. Hein, si vous voyez quelqu'un râler après, les drogués n'aiment pas leur drogue, le fumeur n'aime pas la fumée, enfin, je veux dire que c'est assez rare qu'ils en défendent les vertus, ils n'aiment pas leur drogue. Et je crois qu'il y a un lien très profond dans l'entreprise française de dépendance entre les collaborateurs, parfois, et l'entreprise. Lien qui s'est effectivement, parce que la décentralisation, quand vous êtes dans une petite vallée, il suffit de voir ce qui existait en Alsace dans les petites vallées textiles, ou Moulinex dans ces petites vallées normandes, ou même à Oyonnax, c'est vrai qu'une entreprise qui ferme, c'est un drame colossal. Une entreprise qui ferme à Paris, ça prend des proportions un peu moins graves. Donc, ce lien de dépendance, et je pense qu'il est historique en France, quelque part. Nous, on avait par exemple un exemple typique du côté du Choletais, d'une entreprise qui faisait des chaussures. Elle faisait des chaussures et ça se passait très bien. Les ouvriers étaient très contents, ils avaient un petit jardin, ils avaient même quelquefois des champs et 3 vaches. Ça se passait très bien et le patron et l'entreprise, tout le monde était content, le patron et l'entreprise. Le patron pouvait casser les Ferrari, ça n'était pas très grave, il gagnait sa vie, il y avait un pacte social. Le pacte social, c'est que je veux bien travailler pour lui, à condition qu'il m'assure l'emploi à vie. Et l'entreprise a été obligée de fermer. Eh bien, le patron et la famille du patron a été obligée de quitter la région, parce que la situation était devenue invivable. C'est-à-dire que ce lien qui s'était créé, qui existait, qui était très fort, s'est transformé en haine. Donc, je dis ça, ce sont des notations comme ça. La question est quand même une question d'actualité en France, très très forte, parce qu'effectivement, tout à l'heure, ces messieurs parlaient de quelque chose sur l'entreprise que je trouve... On me demande qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. D'abord, l'entreprise, c'est un acte de foi dans l'avenir. C'est un acte de foi dans l'avenir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit qu'il va y avoir un avenir. Que l'avenir n'est pas pourri, Et il croit... Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui croient à l'avenir, déjà. La première condition de la réussite, c'est croire à l'avenir. Quand vous montez une PME, vous faites un produit, c'est que quelque part, vous croyez que la société dans laquelle vous vivez va durer. Hein? Et donc, cette croyance à l'avenir... Et je note quelquefois qu'effectivement, dans l'entreprise, le rapport qui existe à l'entreprise est lié à ce sentiment d'avenir. C'est-à-dire, et comme me disait M. Levaux, je crois très très justement, l'investissement c'est le signe d'un avenir et ça donne la foi dans l'avenir. Et je crois que ce sentiment de déprime, largement encouragé par la presse et les journalistes...
Il y avait longtemps.
Eh bien, il fallait bien que je le dise. Ce sentiment de déprime, c'est aussi à vous tous et à vos parents qu'il faudrait poser la question, quid de votre foi dans l'avenir? Quid de votre foi dans l'avenir? Qu'est-ce que vous croyez dans l'avenir de la société française, de ses rapports humains, de sa chance? Et je crois qu'il y a vraiment une question de fond en France dans les rapports du collaborateur avec l'entreprise, avec le travail et même avec la société en général.
Thierry Charles, un mot.
Je voulais juste rajouter une chose. Oui. Je vais revenir sur un des fondamentaux de l'économie. Il faudrait aussi se poser la question, par rapport à ce que vous nous dites, de savoir, parce que là je relève que dans une PME, le dirigeant a proposé à ses cadres un principe d'actionnariat. Oui, c'est un gros problème en France. La plupart des entreprises aujourd'hui dépendent, et vous le savez bien, de fonds de pension en Floride, de veuves, comme on dit, les veuves d'Édimbourg. Donc là, effectivement, pour ces gens-là, une entreprise à Oyonnax, à Lyon, ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité. Ils déplacent ça comme des pions. À partir du moment où vous avez une structure ou familiale, comme l'exemple qui a été donné par M. Devaux, ou une PME qui est indépendante du fait qu'elle a un actionnariat en interne, bah déjà, le risque est un peu moins grand. L'autre difficulté, et le Président l'a rappelé aujourd'hui même, c'est qui aujourd'hui profite de la crise pour racheter les entreprises françaises ? Eh bien, les Indiens, les Chinois, ceux qui aujourd'hui ont les moyens de les racheter. Et on est complètement absent. On est complètement absent. Donc vous voyez, là aussi, il faut qu'on est nous-mêmes responsables de tout ça. Alors quand je dis nous, c'est sur une génération, hein, puisque vous savez que les Français ont plutôt tendance à épargner à la caisse d'épargne plutôt que d'investir dans les entreprises. Alors voilà, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes de cette dépendance qui a été rappelée. Est-ce qu'on n'est pas en partie également responsable, plutôt que de stigmatiser encore une fois les entreprises, et effectivement, on vous l'a dit, il y en a certaines qui jouent pas le jeu, on sait très bien que ça a toujours existé, mais en faire une généralité, comme trop souvent c'est fait, à mon sens, c'est une erreur.
Question de monsieur.
Oui, alors, il y a beaucoup de lycéens aujourd'hui, et j'aurais aimé que monsieur Devaux nous explique ce qui avait changé dans son rôle de chef d'entreprise au fur et à mesure que son entreprise grossissait, et notamment les contraintes, les contraintes nouvelles qui naissent avec de nouveaux partenaires, de nouveaux objectifs.
Tout d'abord, je m'excuse, simplement dire une chose. Lorsque je suis rentré en bourse, il y a, à l'époque, vers dans les années 86, je crois, lorsque j'ai donné des actions, ou j'ai vendu des actions à la moitié du prix, ou je ne sais pas ce que j'avais le droit de vendre à l'époque, si vous voulez, à l'ensemble de mon personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a souscrit, évidemment, dans le système. L'action s'était multipliée par 7-8, je crois, en peu de temps. Et rapidement, pratiquement, tout le monde a vendu parce qu'ils avaient mis 100 francs et ils en récoltaient 1000 un an après. Hein. Donc, si vous voulez, l'actionnariat salarié n'est pas toujours très stable. Et ils ont fait sans acrimonie. Ils me disaient, monsieur, regardez le cours, est-ce qu'on ne ferait pas bien de vendre, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, oui.
Si on ne peut pas les empêcher de faire une bonne affaire.
Quand même. Oui, donc, enfin, voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'entreprise, qu'est-ce que c'est? L'entreprise, c'est un lieu de vie pour des gens. Donc je crois, comme on le disait à l'instant, un lieu de vie dans une affaire qui a 10 000 personnes, 20 000 personnes, il faut trouver des relais dans ces milieux de vie. Hein. Je crois qu'il est très difficile, si vous voulez, de comparer, comme on le disait tout à l'heure, la PME de la grande société. Hein. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, je crois que le gros avantage pour des gens qui sont rentrés chez moi et dans les affaires au départ, c'est qu'ils avaient une conscience plus limitée, si vous voulez, d'avenir, ou du moins, ils se sentaient dans le textile tellement traumatisés par ce qui se passait ailleurs, je ne rappellerai pas les médias, que ce qui a changé, c'est que je crois, et moi je vous dirais, parce que je suis rentré après dans une cinquantaine d'entreprises dans ma vie, hein, dont des grandes entreprises que j'ai recédées toutes, si vous voulez, dans d'autres métiers. Je crois ce qu'il faut d'abord dire aux jeunes, ce qu'il faut d'abord dire à nos étudiants, c'est qu'il n'y a pas de mauvais métiers. Il y a des mauvaises entreprises, certes, il y a des entreprises différentes, mais il n'y a aucun mauvais métier. Je crois qu'aujourd'hui, ne pas croire, si vous voulez, dans une industrie, et je dirais que moi, quand je suis rentré, lorsque jeune étudiant chez les bons pères, on est venu me trouver en me disant en terminale, si tu ne rentres pas dans l'affaire, on va arrêter l'affaire. Honnêtement, je me suis dit, mais je voulais faire HEC, si vous voulez, on m'a dit non, il faut faire une école technique, parce que il faut mieux faire une école technique, parce que...
On est dans le concret tout de suite.
Quoi. On a manqué de techniciens dans l'affaire, mais mon père avait fait une école commerciale, donc voilà. Je crois qu'aujourd'hui, tous mes camarades, qu'est-ce qu'ils cherchaient à l'époque? rentrer, devenir ingénieur ou grand commercial dans l'acier. À l'époque, c'était, si vous voulez, l'acier. C'était l'automobile, hein. C'était l'électronique qui commençait, si vous voulez. Il y avait un tas de métiers. Et arrivé à 55 ans, la plupart, malheureusement, de mes amis ont été mis en pré-retraite à 55 ans s'ils faisaient de la sidérurgie, à 56 ans s'ils faisaient de l'automobile, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais métier. Et je crois qu'aujourd'hui, choisir des métiers en pensant qu'ils vont durer jusqu'à votre retraite, c'est illusoire. Vous rentrez dans des entreprises, vous avez de la chance, vous pourrez peut-être y rester. Hein, mais aujourd'hui, ne cherchez pas aujourd'hui à vouloir rester dans une entreprise. Changez-en si vous le pouvez. Hein, et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut acter dans le système. Et le changement sera toujours bon pour vous, les jeunes, aujourd'hui. Et quitter vos entreprises, c'est pas dramatique. Moi, aujourd'hui, j'estime pénalisé par le phénomène que les gens chez moi restent. Donc aujourd'hui, ne manquez pas d'ambition, évoluez, changez.
Richard,
ce sera bien pour votre entreprise et ce sera bien pour vous aussi.
Je voudrais ajouter que ce qui fait peut-être la différence dans une entreprise et par rapport à une petite et une grande, c'est le silence. Dans une petite PME, vous l'avez compris, on communique sans cesse parce que c'est plus facile. Dans une grande entreprise, le silence crée des frustrations. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Enron aux États-Unis. C'est parce que personne n'a parlé. Pourtant, il y a pas mal de gens qui savaient ce qui allait se passer. Et c'est le silence qui a tué cette entreprise, avec toutes les conséquences derrière. Donc il faut garder, on en parlait tout à l'heure, il faut arrêter de communiquer par Internet, par PowerPoint, etc. C'est de la communication directe. Et même quand on est au sein d'une grande entreprise, il faut trouver les moyens sans cesse de communiquer pour éviter ces frustrations, éviter de taire des ambitions où véritablement on parlait de création par des salariés. Il y en a, je suis sûr, qui ne sont pas suffisamment développés parce qu'ils se disent c'est pas le moment, je fais le dos rond, je me cache parce que si ça se trouve, si on me remarque trop. Bon, vous voyez, c'est peut-être ça qui peut avoir une incidence une fois qu'on a dépassé un certain cap entre la PME et voilà, rompre ce foutu silence qui parfois. Peut avoir des graves conséquences, et je le répète, l'exemple est là aussi, il y a eu tout un tas d'essayistes aux États-Unis qui l'ont dénoncé. Endeavor aussi, hein, qui a explosé en vol, c'est parce que certains ingénieurs savaient qu'il y avait un risque, mais qu'ils ne l'ont pas dit, quoi. Donc vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Là, on sort un peu du cadre de notre réunion, mais le silence peut avoir de très graves conséquences.
Monsieur Deveau, vous vouliez rajouter quelque chose très
vite. Interdisez les mails entre les gens, entre eux, des gens qui sont à 2 mètres, ils font un mail, et c'est tout juste s'ils ne gardent pas sur leur tête le truc de musique, etc. Interdisez les mails avec des gens de 2 mètres, ils ne se parlent plus les gens, et ne mettez des machines à café, et si vous voulez, demandez à ce que les gens ne restent pas trop longtemps, mais il faut mieux qu'ils discutent pendant 10 minutes dans leur journée de travail, plutôt que de se passer des mails et de n'écouter personne. La richesse, ce sont les autres.
Et remettez-vous en cause avec les SMS, hein, parce que ça marche aussi pour vous.
Et logiquement. Monsieur, une question.
En fait, deux questions. Les professeurs d'économie apprennent à leurs élèves qu'il y a des taux de chômage différenciés selon les catégories sociales. On sait que les ouvriers sont au chômage pour 12 ou 13% à peu près de leur population, les cadres à peu près pour 2 ou 3%. Alors
entre 3 et 4.
Entre 3 et 4. Et ma question s'adresse à M. Solar. Quel message pourrait-il faire passer à des jeunes qui sortent du système scolaire avec une qualification telle que la vôtre? Et ma deuxième question est plus générale et peut-être plus particulièrement à ce monsieur qui fait du consulting.
M. Rouillier, oui.
Technique, suggestion, qu'est-ce qu'il suggérerait à un chef d'entreprise, ça rejoint en partie ce qu'a dit M. Deveau avant, qui se heurte de plein fouet à la mondialisation et à des entrepreneurs qui proposent des produits avec des coûts salariaux qui sont 10 fois inférieurs aux siens.
Alors, M. Solar, d'abord.
La première chose, c'est si on a envie de créer, je pense qu'il faut créer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense qu'il faut... Il faut rechercher un petit peu de la documentation, s'intéresser, se rapprocher des conseillers, des consultants, de certaines associations comme le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, ces associations patronales, par exemple.
Même les chambres de commerce qui sont de bons conseils.
Chambres de commerce vont vous aider à écrire une stratégie, à faire une étude de marché sur votre secteur et vous aider, pourquoi pas, à démarrer. Après, ce qu'il faut retenir, c'est toujours être en métaposition sur ce que vous faites, c'est-à-dire toujours avoir l'analyse du mouvement que vous allez faire pour avancer, en fait. Et pour pouvoir anticiper sur les mauvaises choses.
Monsieur Solar, gardez le micro une seconde avant que Bernard Rouilly réponde à la deuxième question de monsieur. Aujourd'hui, vous envisagez plus du tout, je veux dire, sauf catastrophe immense, mais hors de question de retourner même à un poste de direction, même de cadre supérieur dans une boîte qui ne serait pas la vôtre aujourd'hui?
Si je suis contraint et forcé, je le ferai, bien sûr.
Ça ne serait que sous la contrainte.
Oui, je le ferai et j'apporterai toute l'expérience que je peux avoir pour aider cette entreprise. Mais aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas là-dessus. Quoi, et
c'est loin de vos
pensées.
On est
sur des développements, entre autres à l'étranger, et des projets, il y en a tout autour du ventre.
Bernard Rouilly, deuxième question. Alors, vous dites quoi, une boîte qui se prend la mondialisation?
Une boîte qui est en concurrence avec des produits qui viennent de Chine, d'Inde ou d'ailleurs.
Chez Adrien Stratégie, vous en avez quand même conseillé pas mal qui se sont pris justement la mondialisation de plein fouet.
Pratiquement peu ou prou tous les clients. Il faut quand même comprendre comment, faut quand même remettre les choses à leur place. Le pouvoir d'achat des Français est largement soutenu par la mondialisation. Il faut comprendre que les textiles pas chers, je dis ça à Monsieur Leveau, les textiles pas chers que vous payez pas cher, a soutenu le pouvoir d'achat. Donc, c'est déjà l'anathème constant sur la mondialisation. Il faudrait probablement la relativiser. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on conseille? Il y a eu plusieurs solutions qui ont été présentées, pas forcément par nous. Il y a les gens qui, dans le textile particulièrement, ont commencé à faire le tour du monde et à sous-traiter. Il y a la deuxième, et qui ont sous-traité, effectivement, Monsieur Leveau me démentira peut-être, mais nous, en général, on dit si vous commencez à délocaliser beaucoup, ça va être extrêmement dangereux. Parce qu'à un moment, vos ateliers sur place vont être en concurrence avec ceux qui sont à l'extérieur, et à un moment, vous ferez des comptes d'exploitation, et c'est difficile. Et donc, en règle générale, la suggestion qu'on nous faisons, mais c'est pas toujours, c'est créer de la valeur. C'est créer de la valeur. Je crois que Monsieur Deveau le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de faire des produits avec une valeur supplémentaire qui puisse non plus être sur l'univers concurrentiel du pas cher, mais dans un autre univers concurrentiel. Je vous rappelle quand même que, par exemple, sans vouloir le donner, les gens du luxe vivent toujours relativement bien parce qu'ils créent de la valeur, une valeur forte. Donc, en général, essayer de créer de la valeur, c'est le métier des stratèges, c'est pas toujours facile. Il y a des produits sur lesquels c'est pas évident de créer une valeur supplémentaire pour que les gens le paient plus cher et acceptent de le payer plus cher. Et puis, il n'y a pas de miracle. Je m'excuse de le dire, mais il n'y a pas de miracle. Il y a des moments où là on est sec parce que on se dit il y a des cas où la solution n'est pas complètement évidente et apparente. Je me souviens, c'est souvent dans le domaine du Xteti, d'associer d'une entreprise qui avait une partie de ses activités en Vendée, une autre partie au Maroc. On lui a dit que ça allait aller mal. Elle était fournisseur de la grande distribution, ce qui n'est pas complètement évident parce que on ne parle pas trop de la grande distribution, mais on parle beaucoup de l'externalisation. Mais enfin, on pourrait aussi parler du rôle de la grande distribution dans la politique industrielle française. C'est quand même aussi un sujet chez lequel nous sommes un petit peu, parfois on nous considère comme un peu hargneux. Mais la grande distribution a joué un rôle très important. Et donc, à l'extrême, quand vous avez un client qui travaille sur des produits à faible valeur avec la grande distribution et qui fait de la transformation à faible valeur avec la grande distribution, c'est pas quand même, et qui est vraiment tout à fait voué à la grande distribution, il est un peu à la merci du bon Dieu, quoi. Voilà. Excusez de répondre, mais il est à la merci du bon Dieu. Dans d'autres cas, il faut créer de la valeur, il faut trouver des solutions.
Lucien Deveau, justement, juste un mot avant de prendre une autre question. L'industrie textile, je l'ai dit, elle a payé un lourd tribut à la mondialisation, même si Monsieur Charles, j'ai bien conscience que la plasturgie aussi. On a dit que les entreprises qui avaient tenu le choc en France, c'est celles qui justement avaient réussi par la recherche, l'innovation, à créer des produits textiles à forte valeur ajoutée que justement les pays émergents ne pouvaient pas concurrencier. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est la seule sortie possible, c'est par le haut.
Je crois qu'il faut se méfier. Hein. Il faut penser d'abord qu'il faut continuer à essayer de gagner en valeur ajoutée, mais il faut aussi gagner en productivité. C'est-à-dire que si vous laissez aller sur une vague trop facile, elle vous rattrapera demain. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des classes de choses, comme vous le disiez très bien. Bon, par exemple, moi, j'ai connu jusque dans les années 70-80 des affaires qui disaient contre la mondialisation, on gagnera par la productivité uniquement. Ça a été un échec un jour ou l'autre. Elles ont été, quand vous faites des sous-vêtements, par exemple, aujourd'hui, parce qu'il faut bien retenir ce mot pour moi qui est la séduction dans le textile. Donc, déjà, je prends une partie du textile, hein, le textile n'est pas séduction à 100% pour tout, il a par exemple 80% où il est séduction, mais il y a quand même des parties où il y a moins de séduction, des vêtements de dessous, etc., où le problème séduction est moins important.
Hein. Oh, ça dépend lesquels, hein.
Non, mais vous avez la lingerie féminine qui est le summum de la séduction, certes, si vous voulez, mais vous avez d'autres vêtements intérieurs. Et moi, je peux en parler aussi.
C'est sûr, un pyjama en pilou, c'est moins glamour.
Vous voyez, j'ai aussi un petit département, si vous voulez, qui fait de l'éponge de salle de bain. Eh bien, l'éponge de salle de bain, quand le marché est de 100, la partie séduction n'est peut-être que de 10 ou 15 ou 20. Hein. Et il est beaucoup plus difficile, je l'ai gardé, mais je l'ai transformé en marque, en griffe, etc. Et malheureusement, elle est petite. Hein. Donc je ne l'ai pas développée parce que je savais que c'était plus difficile de le faire. Il est certain. Donc je crois qu'il faut trouver des créneaux. Il y a des créneaux impossibles aujourd'hui ou rester en France aujourd'hui. Alors quand vous avez ça, par exemple, bon, moi j'avais eu d'affaire d'éponges qui employaient 140 personnes. J'ai mis 10 ans et je me suis battu à faire des marques, des griffes, etc. pour que je ne perde pas d'argent, donc que je ne sois pas appelé à licencier des gens dans cette partie. Et aujourd'hui, je m'en sors, elle emploie 20 personnes, tout me va très bien, etc. Donc il ne faut pas non plus penser que... On en sortira toujours. Hein. Il faut peut-être savoir faire d'autres métiers, mais c'est difficile, je l'avoue, pour des gens comme nous, comme on disait. Dès qu'on voit qu'il faudrait supprimer des gens, on a les tripes malades.
D'où l'expression avoir le charisme d'une éponge.
Je veux juste rajouter quelque chose, deux choses à la
très
question
vite,
que vous avez posée.
Une question. Le temps
en fait, il y a une chose, il faut arrêter de croire qu'on va s'en sortir que par l'innovation sous prétexte que les Chinois sont incapables de faire aussi bien que nous. Dans la plasturgie, vous avez une particularité, notamment dans le médical, de travailler en salle blanche pour que véritablement, tout le monde le comprend, que ce soit des produits qui souffrent aucun problème en termes d'hygiène. Mais vous avez en Chine des entreprises où vous mangez par terre, hein, il n'y a aucun souci. Et pensez bien également qu'au niveau de la formation, puisque vous parliez de la formation, la plupart des grands chefs d'entreprise indiens ont des MBA aux États-Unis. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. D'accord ? Et alors, là aussi, pour reprendre à votre question, et là, c'est, à mon sens, c'est une question d'actualité, est-ce qu'il est aujourd'hui nécessaire pour un étudiant de faire un doctorat ? Je ne suis pas certain. Et là, vous avez deux bons exemples. C'est peut-être pas la peine de faire un master 1, master 2 et plus, voire plus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment qu'on a des étudiants surdiplômés, mais qui, aujourd'hui, arrivent dans les entreprises, et notamment dans les PME, et il y a une inadéquation entre l'attente des chefs d'entreprise et le cursus de ces universitaires. Donc j'aurais plutôt tendance à croire qu'il faut promouvoir la filière professionnelle, quitte à faire une expérience à l'international, parce que ça c'est absolument aujourd'hui indispensable, plutôt que de s'imaginer qu'avec 3 ou 4 diplômes... Alors je sais bien, c'est vrai que c'était pas exactement ce qu'on dit aujourd'hui ou ce qu'on disait hier, mais il faudrait peut-être se poser de nouveau la question... Parce que c'est vrai, quand on voit les CV nous arriver, franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Quoi.
Monsieur, allez, très vite.
Ma question, sans vouloir stigmatiser de nouveau les entreprises, mais je reviens sur les affirmations de M. Deveau et de M. Charles qui parlaient de la nécessité de communiquer et d'arrêter d'utiliser toujours le matériel high-tech qui remplace la communication verbale. Ma question, elle est, est-ce que ce n'est pas dans le fond le monde des entreprises qui a créé un besoin chez les jeunes de ce matériel-là pour être mode, pour être à niveau, avec tout le niveau de la publicité, on a étudié ça aussi en cours, de la communication marketing qui crée en quelque sorte un message pour convaincre le client d'acheter. Donc ma question elle, est-ce que qui de la poule ou de l'œuf est venu le premier? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui crée le besoin chez le client pour vendre, ou est-ce que c'est le client qui est un consommateur en tant que tel, a une responsabilité énorme, qui demande quelque chose que l'entrepreneur doit lui fournir? Comment est-ce que vous voyez cette relation?
Stratégie d'offre et de demande, mais ça, je ne sais pas qui veut répondre, Lucien Deveau.
Je crois que c'est après l'éternel problème, hein, et je crois qu'il faut être entier nulle part. Hein. Je vous dis aujourd'hui que celui qui ne sait pas se servir d'un mail ou qui ne veut pas s'en servir est aussi idiot que celui qui ne fait que de la communication par mail. Hein. Je crois que c'est toute une question, si vous voulez, de rapport. Hein. Et je crois que le phénomène... Mais il est bien certain qu'aujourd'hui, on a l'impression que des choses font modernes, si vous voulez, et tous les gens ne veulent utiliser que cela. Et il y a un côté d'être ringard si vous ne l'utilisez pas. Mais aujourd'hui, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Essayer de proposer le meilleur produit qui plaît le plus et qui est le plus vendu. Hein, le consommateur, si vous voulez, nous ne sommes pas responsables si nous ne donnons pas des produits qui apportent des maladies, qui apportent, etc. Nous ne sommes pas responsables. Entreprise, j'entends, pas homme de société, mais entreprise, nous ne sommes pas responsables des modes qui s'entraînent. Hein. Aujourd'hui, moi, je pense qu'écouter toute la journée, du reste, c'est prévu. Moi, quand je vois que je ne dois pas avoir plus de 30 décibels dans mon entreprise, que je dois protéger par des coups faramineux, si vous voulez, et que ça correspond, le type qui va dans une boîte de nuit à fond la caisse et qui écoute, en 10 minutes, il est plus sourd qu'en restant à travailler chez moi pendant 10 ans. Et finalement, moi, on me demande de le payer si jamais il est un peu sourd, si vous voulez. Et on ne fait pas payer la boîte de nuit non plus. Hein, donc,
ça serait marrant, ça, de sponsoriser la boîte de nuit.
Bon. Je voulais dire quelque chose. Moi, je trouve votre question très intéressante. Et elle nous pose tous la question de savoir si c'est vous qui êtes ringard ou nous. C'est... Pour être fait, nous, en stratégie, bon, je vais donner pêle-mêle. L'idée générale que nous nous faisons de la stratégie, mais c'est une idée générale, c'est que, je vais prendre le raisonnement, il y a beaucoup d'hommes, il y a peu d'idées, c'est pour ça que tous les hommes ont en même temps la même idée. C'est-à-dire que la société évolue, et ce qui fait évoluer les idées de la société, ce qu'on appelle les tendances, c'est les propositions qu'on lui fait. Ce qui a fait évoluer la société, c'est l'invention de l'informatique. Ce qui a fait évoluer, qui a fait changer la société. Et, par exemple, je vais vous prendre un cas qui est général d'évolution de la société. Ce sont les faits qui font évoluer la société. Les femmes travaillent, par exemple, c'est une proposition. On consacre de moins en moins de temps au repas. La nutrition, elle a évolué parce qu'ils se sont passés des événements. La roue a fait évoluer la société. Et après ça, effectivement... Ce qui est très difficile pour l'entreprise, c'est qu'elle participe à l'évolution de la société, et souvent très traditionnaliste, elle a du mal à la rattraper. Vous pourriez dire, vous, en tant que jeune, mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Nous avons été formés avec l'offre du téléphone portable, des mails, etc. Notre société devient celle-là, c'est une tendance lourde et générale. C'est quand même à vous de vous faire à cette société-là. Alors, pour répondre à M. Deveau, oui, moi, je suis assez d'accord. Je pense que les sociétés, en général, le nez dans le guidon, les entreprises, regardent assez mal l'évolution auquel elles contribuent. Elles le regardent assez mal. Elles le regardent parce que ça leur fait peur, aussi. Parce qu'il y a un certain traditionnalisme et qu'elles ont du mal à changer. Et puis, quand même, ça demanderait beaucoup de choses difficiles. C'est vrai, mais à côté de ça, reste quand même le libre arbitre. Et il faudrait quand même soulever la question de ce qu'est la communication humaine, qui n'est pas forcément... Et là, vous êtes tous, au fond, devant un libre arbitre. Je rappelle quand même simplement, un mail en entreprise, c'est une façon de se débarrasser du problème. J'ai envoyé un mail, je l'ai fait, pouf, comme ça, je n'ai pas de problème relationnel. Or, vous savez qu'effectivement, une société qui voudrait se débarrasser de tous ses problèmes relationnels se mettrait sur le dos beaucoup de problèmes encore plus graves. Donc, la vraie question, c'est comment on gère dans nos sociétés des rapports humains dignes des humains.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même l'essentiel de la chose. En guise de conclusion, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, gardez le micro, Bernard Rouilly, je vais commencer par vous. Mais je vous pose la question à tous les quatre et je vous demande une réponse malheureusement assez courte. Si on reprend le thème de cette rencontre, la success story, c'est quoi une success story? C'est quelque part quelqu'un qui peut se retourner après un parcours et ce qu'est en train de vivre M. Solar, et j'espère que ça va continuer longtemps, et où dans ce parcours il peut se retourner en disant bah, je ne regrette pas une once de ce que j'ai fait, et en fin de compte c'est peut-être ça le vrai bonheur, c'est de pouvoir se retourner et de se dire qu'on a vécu exactement comme on le voulait et exactement avec les intentions qui étaient les nôtres, et que bon, grâce aux circonstances et à son savoir-faire, on a pu y arriver. Tout ça pour vous poser la question suivante: comment justement, que ça soit à l'intérieur d'une grosse boîte ou en individuel, donner justement aux jeunes qui sont là le goût d'entreprendre, puisque le goût d'entreprendre, c'est aussi avoir aussi le goût des autres en fin de compte. Bernard Rouilly.
Bah, c'est une question qui se pose. On aurait tort de poser seulement aux jeunes. Oui. En leur faisant peser la responsabilité de l'entreprise, c'est une question que
non,
vous pouvez...
C'est comment, nous, notre génération, peut leur donner le goût d'entreprendre.
Eh bien, c'est que je crois que notre génération devrait croire à l'avenir. C'est une question de foi, foi dans l'avenir de nos sociétés. Je veux dire que sans foi dans l'avenir, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'autre chose d'ailleurs non plus, mais c'est la foi dans l'avenir, la certitude qu'il va y avoir un avenir, qu'on va participer à cet avenir. Vous savez, M. Deveau disait, j'ai beaucoup aimé, dans une entreprise, le patron, il vend toujours de l'avenir, il fait des investissements, ça vend de l'avenir, il vend des avenirs à soi. Une entreprise qui marche bien, on le sait très bien, nous, en tant que consultants. On rentre dans une entreprise, on vous fait un diagnostic de communication interne qui est épatant. Pas de communication horizontale, pas de communication verticale. On se dit, oh, il y a un problème. Et quel est le problème? Le problème, c'est que l'entreprise est incapable de vendre un avenir à ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stratégie, au sens. La stratégie n'est pas bonne. C'est-à-dire que la plupart des relations humaines qui sont mauvaises dans l'entreprise viennent de l'incapacité, parfois, de l'entreprise à vendre un avenir, à vendre de la foi, à vendre un marché qui va évoluer dans le sens où va l'entreprise, à vendre le fait que les gens vont avoir du travail, vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir... dans le travail, se réaliser en quelque sorte. Donc voilà, donc si me dites success story, et si vous regardez tous les success stories que j'ai connus, c'est toujours des gens qui ont la foi. Hein.
Thierry Charles.
Ça tombe bien, effectivement, moi je vais passer le relais, donc je vais parler de confiance, parce que c'est vrai que, à mon sens, on a eu une époque depuis. On a vécu deux 11 septembre, hein, le 11 septembre 2001 et le 11 septembre 2008 avec la crise financière. Donc c'est véritablement le pire qui nous attend, c'est d'avoir de continuer dans cette crise de confiance, et il faut lutter véritablement contre ce qu'on appelle donc les cassandres de la récession. Il faut avoir confiance, tout simplement, sinon il n'y a pas d'autre possibilité de créer ou d'innover, etc. Et au-delà de ça, je dirais que pour être un peu plus cette fois optimiste et vous renvoyer la balle, c'est que vous savez que c'est la fin du baby boom. Et en Europe, vous avez un tiers des entreprises qui sont à reprendre. Donc là, c'est vous, hein, c'est pour vous. Hein. Parce que là, véritablement, il y a aussi, de ce point de vue-là, un enjeu majeur. Je parlais de l'enjeu qui aujourd'hui rachète les boîtes. Eh ben, sachez que dans les 10 ans qui viennent, vous avez un tiers d'entreprises en Europe qui sont à reprendre. Donc à vous de jouer.
Voilà, une bonne nouvelle. Philippe Solar.
Pour moi, je pense que, en fait, entreprendre chez les jeunes, ça fait peur parce qu'on imagine que si on se trompe ou si on fait une erreur, derrière, c'est une sanction immédiate.
Alors on va être ruiné, oui.
C'est une sanction immédiate et on a l'impression de se mettre en danger. C'est ce que des jeunes de l'IAE de Lyon m'avaient dit. Et en fait, je leur avais répondu à ce moment-là, vous vous mettez en danger par rapport à quoi? Et ils n'avaient pas su répondre. Et en fait, ils perdent un peu d'argent, mais ils ne se mettent pas vraiment en danger. Moi, je pense qu'entreprendre, c'est primordial. En fait, on entreprend tous dans la vie, tous les jours, aussi bien dans son entreprise que dans sa vie personnelle. Si vous voulez apprendre à entreprendre, créez votre propre association caritative ou autre, ou entreprenez à travers les autres aussi, aidez des gens à entreprendre. Et puis vous prendrez de l'expérience et derrière, vous pourrez vraiment entreprendre à votre nom.
Lucien Devaux.
Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais un conseil pour des gens qui rentrent dans la vie, c'est aimer, aimer, aimer. Soyez passionné, soyez passionné, soyez passionné. Et je dirais aussi, si vous voulez, c'est dialoguer, savoir écouter et savoir parler. Hein, si vous voulez. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. Mais si vous aimez, vous dialoguerez.
Merci. Il ne me reste plus qu'à remercier toutes les équipes, aussi bien techniques que de l'organisation. Et vous, messieurs, merci. Très bonne journée.